Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 18 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. C'est jour férié aujourd'hui aux États-Unis. L'Amérique célèbre l'héritage de Martin Luther King, leader des droits civiques et apôtre de la non-violence, comme chaque année depuis 1986. Le troisième lundi du mois de janvier est dédié au souvenir de la mémoire de Martin Luther King, dont le discours « I have a dream » prononcé le 28 août 1963 à Washington est resté dans les annales de l'histoire comme le plus grand appel pour l'égalité des races. La célébration du Martin Luther King Day coïncide cette année avec l'ouverture d'une semaine historique aux États-Unis. Le président élu Joe Biden a dévoilé dimanche sa feuille de route pour sortir le pays de ses crises économiques, sociales et sanitaires. Le démocrate sera investi mercredi 46e président des États-Unis dans une capitale transformée en camp retranché. Sur le continent, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, ont commémoré dimanche le 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, éphémère premier ministre et éternelle icône de la décolonisation. Dans la capitale Kinshasa, le président a visité le site qui doit accueillir la sépulture du héros national assassiné à l'âge de 35 ans après un parcours météorique. Seul prix Nobel congolais de l'histoire, le gynécologue Denis Mukwege a qualifié Patrice Lumumba d'un des plus grands héros de l'histoire de l'Afrique. Le leader de l'opposition ougandaise Bobi Wine a appelé dimanche la communauté internationale à réclamer la levée de son assignation à résidence au lendemain de l'annonce des résultats contestés de l'élection présidentielle qui a reconduit le président Yoweri Museveni pour un sixième mandat. Deuxième du scrutin avec 34,8%, l'ancien chanteur de Raga, l'ancien politique Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, se dit assiégé par les soldats et la police qui ont encerclé sa maison empêchant quiconque d'entrer ou de sortie. Des affrontements entre tribus rivales au Darfour ont fait plus de 80 morts en moins de 48 heures, selon un nouveau bilan dimanche. Ces violences sont les plus meurtrières depuis la fin, le 31 décembre, de la mission de la paix conjointe, de l'ONU, la MINUAD et de l'Union africaine au Darfour, présente dans cette vaste région depuis 13 ans. Khartoum a imposé depuis samedi un couvre-feu au Darfour Ouest. Et le premier ministre Abdallah Hamdok y a envoyé une délégation de haut rang pour tenter de rétablir l'ordre. Des émeutes et des violents affrontements ont éclaté dimanche pour une deuxième soirée consécutive à Tunis et dans au moins 15 autres villes tunisiennes entre manifestants et forces de l'ordre alors que le pays fait face à une crise économique sans précédent. Les contestataires n'ont pas formulé de claires revendications lors de manifestations que les autorités ont décrites comme des émeutes dans au moins une dizaine de villes. Le mouvement de contestation fait figure de défi pour le premier ministre Hicham Mechichi, qui a remanié samedi son gouvernement sur fond de lutte d'influence politique entre les partis. Un tribunal égyptien a ordonné la saisie des avoirs de l'ex-président Mohamed Morsi et 88 autres cadres des Frères musulmans, mouvement classé terroriste par lequel la saisie concerne notamment les avoirs hérités par l'épouse et 4 enfants de l'ancien président Mohamed Morsi, décédé en juin 2019 en plein procès. Après 6 ans en prison, les avoirs du guide suprême de la confrérie Mohamed Badi, de son adjoint Kerat al-Shater ou encore Mohamed Beltaghi, tous emprisonnés en Égypte. La Grande-Bretagne a annoncé son intention d'accueillir en juin, dans un village de Cornouailles, la première réunion du G7 depuis près de 2 ans. Le premier ministre britannique Boris Johnson souhaite utiliser la présidence du G7 pour forger un consensus sur la nécessité de la reprise économique mondiale après la pandémie du coronavirus. Les dirigeants de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, des États-Unis, du Japon et du Canada ne se sont pas rencontrés depuis le sommet organisé à Biarritz en 2019. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, Centrafrique, les casques bleus reprennent le contrôle d'une ville occupée par les rebelles. Ici, aux États-Unis, une investiture en vue, une procédure de destitution en cours, début d'une semaine historique à Washington, la capitale des États-Unis. Russie, l'opposant Alexei Navalny arrêté hier dès son retour au pays. Jean-Roger Billon revient sur ces nouvelles dans un instant. Nous sommes le lundi 18 janvier 2021. La suite de nos informations en ce lundi 18 janvier 2021, deux semaines après en avoir pris le contrôle, les rebelles centrafricains qui mènent depuis décembre une offensive contre le régime du président Faustin Archange Touadéra ont quitté la ville de Bangassou à 700 km à l'est de la capitale Bangui après un ultimatum de l'ONU. Yacouba Ouedraogo.
La ville est sous le contrôle total de la MINUSCA et les rebelles ont abandonné les positions qu'ils occupaient. La force de l'ONU reste en alerte pour prévenir toute action des groupes armés. La situation est calme et sous contrôle et les positions initialement occupées par les éléments armés ne le sont plus, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Abdulaziz Fall, porte-parole de la composante militaire de la MINUSCA. Le pillage de la ville de Bangassou par les rebelles avant leur retrait à l'arrivée des renforts constitués des éléments du contingent rwandais de la MINUSCA est révélateur d'un des objectifs de ces mercenaires étrangers. Piller nos richesses et les biens de notre peuple, a fustigé sur Facebook le premier ministre centrafricain Firmin Grébada. Le 17 décembre, les six groupes armés les plus puissants qui occupaient les deux tiers de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont alliés au sein de la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement, puis ont annoncé le 19, 8 jours avant les élections présidentielles et législatives, une offensive dans le but d'empêcher la réélection du président Touadéra.
C'est une semaine cruciale qui commence lundi aux États-Unis. Elle sera marquée par le départ de la Maison-Blanche, de Donald Trump et l'investiture de Joe Biden mercredi. Et le camp Biden a dévoilé hier sa feuille de route pour sortir les États-Unis de ces crises économiques, sociales et sanitaires sans être trop ralentis par la procédure de destitution de Donald Trump. En raison des menaces sécuritaires, les forces de sécurité ont été mises en alerte à travers le pays. John Lydon.
Militaire à tous les coins de rue, fil barbelé et imposant grillage, Joe Biden sera investi le 20 janvier dans une capitale méconnaissable, transformée en camp retranché après l'assaut meurtrier du Capitole. Le démocrate a placé sa prestation de serment sous le thème de l'Amérique unie et prévoit de s'entourer de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush pour lancer une main tendue à un pays meurtri et divisé. Trump, qui avait annoncé qu'il ne souhaitait pas participer à la passation de service, quittera la Maison-Blanche le mercredi matin pour la Floride, dans le Sud. Dès le premier jour de son mandat, Joe Biden entend ainsi réengager les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et lever l'interdiction d'entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays, principalement à majorité musulmane. Le 46e président des États-Unis espère aussi donner un nouvel élan à la plus grande campagne de vaccination de l'histoire américaine. Il y a urgence. En moyenne, depuis le 1er janvier, plus de 3000 personnes sont mortes du COVID-19 chaque jour aux États-Unis et plus de 236 000 cas quotidiens ont été détectés.
Le principal opposant russe, Alexei Navalny, a été arrêté par les services pénitentiaires hier, dès son arrivée à Moscou depuis l'Allemagne, où il se trouvait en convalescence après un empoisonnement présumé. Bagasikoura.
Charismatique militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, M. Navalny, 44 ans, est recherché depuis fin décembre par le FSIN, le service en charge des prisons en Russie, qui lui reproche d'avoir violé les conditions d'une peine avec sursis dont il a écopé en 2014, alors qu'il s'apprêtait à donner son passeport pour le contrôle à la frontière. Aux côtés de sa femme Yulia, l'opposant a été approché par plusieurs policiers en uniforme qui l'ont amené. Il restera en prison jusqu'à la décision du tribunal sur son cas, a indiqué le FSIN, sans préciser à quelle date elle pourrait avoir lieu. Ici, sachez-moi, je n'ai pas peur car je sais que j'avais raison et que les affaires criminelles lancées contre moi sont fabriquées de toutes pièces. Je n'ai peur de rien, je vous appelle à n'avoir peur de rien, a déclaré M. Navalny peu avant son arrestation. Le président du Conseil européen, Charles Michel, dénonce comme inacceptable l'interpellation de M. Navalny, exigeant sa libération immédiate. La Lituanie appelle à adopter de nouvelles sanctions contre Moscou et la Pologne a une réponse rapide et sans équivoque au niveau de l'UE. Le futur conseiller à la sécurité nationale du président élu américain Joe Biden, Jake Sullivan, a également appelé à la libération de l'opposant et à tenir responsables les auteurs de son empoisonnement en août.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par John Lydon.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de Côte d'Ivoire annonce l'installation en avril prochain d'un poste de péage sur l'autoroute de Grand Bassam dans le cadre du corridor Abidjan-Lagos. un programme d'infrastructure pour le développement de l'Afrique approuvé depuis février 2012 par les chefs d'État africains. Financé en grande partie par la Banque africaine de développement, ce corridor doit traverser les capitales ghanéennes, togolaises et béninoises. Exécuté à près de 80%, l'autoroute de Grand Bassam a été financée par la Chine à hauteur de 4,8 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement, BAD, a apporté un concours financier de 25,5 milliards de francs CFA au Tchad pour le renforcement de la gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le programme d'appui aux réformes des finances publiques devenu programme d'urgence d'appui à la consolidation budgétaire. La mise en place de ce mécanisme de financement en 2016 est intervenue dans un contexte socio-économique difficile pour le Tchad, marqué notamment par la chute des cours du pétrole sur le marché international. Au Cameroun voisin, le gouvernement annonce le lancement d'un programme de reconstruction dans l'extrême nord. La première phase de ce programme est évaluée à 150 milliards de francs CFA. Depuis 2014, les attaques de Boko Haram dans cette région ont fait entre 2000 et 3000 morts. Plusieurs centaines de personnes ont aussi dû fuir leur maison, dont quelques dizaines de milliers réfugiés au Nigeria voisin.
À présent, la page d'espoir avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Rouget et bonjour à tous.
Football démarré samedi, le 6e championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun.
Oui, et deux matchs sont au programme aujourd'hui dans le groupe C, à Douala, au stade de la réunification. Le champion en titre, le Maroc, fait son entrée face aux éperviers du Togo, qui est à sa toute première participation à cette compétition. En deuxième heure, le Rwanda jouera à l'Ouganda, un duel entre deux rivaux. Les Amavubi croiseront leur ancien entraîneur, Jonathan McInstry, aujourd'hui à la tête des crânes de l'Ouganda.
Toujours à Douala, deux matchs ont eu lieu hier dans le groupe B.
Tout à fait, mais au stade Japoma et la RDC, vainqueur du Congo-Brazzaville 1-0, prend la tête du groupe devant la Libye et le Niger qui se sont neutralisés 0-0. A noter qu'en ouverture dans le groupe A, le pays hôte, le Cameroun, s'est imposé 1-0 face au Zimbabwe. Le Mali a fait pareil contre le Burkina Faso.
Élection à la Fédération comorienne de football, Saïd Ali Atoumane est l'unique candidat.
Il a été le seul dont le dossier a été retenu par le comité de normalisation de la Fédération, qui n'est que la commission électorale. Ses deux autres concurrents, Mahmoud Aboud et Saïd Abdallah Salim, ont vu leur dossier rejeté. Les élections sont prévues le 30 janvier prochain à Moroni.
Athlétisme à présent, Hugues Fabrice Zango explose le record du monde du triple saut en salle.
Exactement Jean-Roger, le Burkinabé a réussi un immense exploit à Aubière en France en pulvérisant le record du monde en salle 17,07 mètres qui appartenait à son entraîneur le français Teddy Tango. Tout heureux, il s'exprime au micro de VOA Afrique.
Franchement, je suis très content d'avoir pu obtenu ce nouveau record qui est l'ancien record de mon coach. Faire 18 mètres en salle, c'est la première fois qu'un humain réussit à franchir cette barrière en salle. Et pour moi, c'est une très grande joie d'être le premier. Je ne fais qu'en profiter avec mes proches. Je profite des félicitations de tout le monde et je ressens plein de gratitude avec toutes ces personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu pour arriver à ce résultat.
À l'instant, Hugues Fabrice Zango au micro de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. À 27 ans, il devient le premier homme à dépasser les 18 mètres en salle. Il explose du même coup sa meilleure performance personnelle réalisée en janvier 2020 qui est de 17,77 mètres. Son record en plein air est de 17,66 mètres, record d'Afrique.
Handball pour finir, le mondial masculin bat son plein en Égypte.
Avec le bon comportement du pays hôte qui a signé sa deuxième victoire, cette fois face à la Macédoine 20-6. Par contre, après sa victoire inaugurale, l'Algérie perd son second match face à l'Islande, score 24-9. De son côté, la Tunisie, bien partie pour signer sa première victoire, a été finalement accrochée par le Brésil 32-2. En revanche, compétition difficile pour le Maroc qui a essuyé un second revers devant le Portugal 20-33, tout comme l'Angola devant la Croatie 20-28 et la RDC face à la Norvège 19-39. La compétition se poursuit aujourd'hui avec la troisième journée des matchs de poule.
Page de sport signée Élisée Oumpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Mali, la transition de 18 mois doit aboutir à des élections générales transparentes. Actuellement, il ne reste que 14 mois pour atteindre cet objectif, alors que la classe politique dénonce le manque d'inclusivité, une militarisation des institutions et la gestion solitaire de la transition par les militaires. Que pense la classe politique malienne des 4 premiers mois de la transition? Élément de réponse dans cette correspondance de Kassim Traoré à Bamako.
À Bamako, la classe politique malienne apprécie diversement les 4 mois de ce début de transition malienne.
D'abord, la première chose, plus de transparence, plus d'écoute, plus d'ouverture de nos autorités de transit.
Je peux dire Kahenkara, mais le car arrive à Grimaldi. Donc, autrement dit, c'est avec beaucoup de difficultés. Cette transition a besoin aujourd'hui de beaucoup d'encadrement.
Pour nous, une transition, c'est une course de vitesse. C'est pas une course de fond en soi. Je pense que beaucoup n'a pas été fait pour l'instant.
La colère de la classe politique a été aggravée par la mise en place du Conseil national de transition CNT, organe législatif de la transition. Soumerou Boubé Maïga, ancien premier ministre.
Quand le CNT a été mis en place, nous avons estimé qu'il y avait une certaine inclusivité, étant entendu bien sûr que tout le monde ne peut pas y être, quoi, ça c'est sûr, parce que nous avons quand même estimé que la société civile, les partis politiques, les forces armées, les mouvements signataires et non signataires, tout le monde était avec, chacun avait une petite représentation.
Le mouvement M5-RFP n'est pas du tout d'accord avec la militarisation de la transition. Shogel Kokala Maïga, porte-parole du M5-RFP.
La mise en place du CNT, qui est l'illustration la plus achevée du mépris affiché pour l'état de droit et l'imposition par la force et la manipulation des déshydratats de la junte, la gestion de l'administration et la gestion politique n'est pas le cœur du métier des militaires. C'est une oligarchie militaire qui s'est installée au sommet de l'état et qui fait ce qu'elle veut exactement. Ce que nous avons reproché à l'oligarchie civile qui était là, que le peuple a contesté pendant 3 mois avant qu'il ne soit renversé le 18 août.
Les réformes, la refondation et le nouveau Mali doivent être les chantiers de la transition. Le professeur Tshomogo Sangaré, président du parti ADEMA PASJ.
Pour l'ADEMA, il est clair que le seul baromètre de la réussite de la transition en cours est la conduite des réformes indispensables et compatibles avec le délai imparti, ainsi que l'organisation d'élections inclusives, transparentes et crédibles. Toute autre démarche pouvant disperser ou éparpiller nos efforts ne sera que divertissement préjudiciable. En tout état de cause, notre parti a décidé de tout mettre en œuvre pour contribuer à la réussite de la transition en cours dans notre pays.
Les 4 mois de début de la transition malienne seront évalués par les chefs d'État de la CDAO lors d'un sommet prévu à Abuja à la fin de ce mois de janvier. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
La ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, est opérationnelle au Cameroun depuis le 1er janvier comme dans 33 autres États parties. Cette zone vise à rassembler 1,3 milliard de consommateurs dans un bloc économique sans droit de douane sur les marchandises pour les pays membres. Le Cameroun est-il prêt? Pas vraiment, estime des experts pour qui le pays doit encore faire quelques ajustements. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jolentap.
D'après la stratégie nationale des exportations, le gouvernement camerounais s'est positionné sur 3 marchés prioritaires avec le lancement des activités commerciales de la zone de libre-échange continentale africaine. Zachary Roger Mbarga est expert chercheur en intégration régionale.
Le premier marché, c'est celui du Nigeria. Et on sait que qui pénètre le Nigeria pénètre l'Afrique de l'Ouest et peut s'étendre en Afrique du Nord. Le deuxième marché, c'est la RDC. Qui pénètre la RDC a un pied en Afrique de l'Est. Le troisième marché, c'est l'Afrique centrale. Le reste des pays de la CEMAC et certains pays de la CEDEAO, c'est tels que l'Angola, le Rwanda, le Burundi, Sao Tomé et Principe.
Mais le Cameroun a encore des ajustements à faire. Il y a par exemple l'urgence d'adopter une stratégie compétitive sur les marchés africains ciblés par le pays. Zachary Roger Mbarga, chercheur en intégration régionale.
Potentiellement, le Cameroun a quand même un niveau de préparation satisfaisant. Stratégiquement, il faut maintenant connaître quelles sont les habitudes de consommation. Ne pas miser sur des industries entières, mais miser sur des industries spécialisées dans le cadre des chaînes de valeur régionales.
532 produits de 30 entreprises locales ont déjà un agrément et circulent librement au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Toutefois, rappelle Ulrich Polan-Kamden, économiste, les normes commerciales de la zone de libre-échange continentale sont encore plus concurrentielles.
C'est vraiment le travail qu'il faut faire véritablement, de pouvoir permettre aux entreprises camerounaises de s'arrimer aux standards internationaux. Ce qu'on peut regretter, c'est que par exemple, cela n'a pas été fait plus tôt, c'est-à-dire au moins 10 ans avant. Créer une entreprise et la mettre en concurrence directement avec des géants, je disais, il y a comme Dangote par exemple, en termes de standards, il faut se dire, ça pourrait être considéré comme un souci.
Seuls les produits qui respectent les critères d'origine vont circuler librement, sans payer les droits de douane en Afrique, ce qui représente un atout pour le Cameroun. D'ailleurs, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a rencontré le 14 janvier les opérateurs économiques à Douala et les a encouragés à produire localement. L'économiste Ulrich Polan-Kamden indique cependant que les produits du Cameroun coûte encore trop cher.
Au Nigeria, vous avez une TVA, par exemple, de l'ordre de 6%, tandis qu'au Cameroun, de l'ordre de 19,25%. Cela fait que, à un moment donné, les produits du Nigeria pourront être préférés aux produits camerounais.
Certains produits ne sont pas concernés par la libéralisation, soit 175 lignes tarifaires. Il est question de protéger des industries naissantes. Dans ce groupe, on retrouve des produits tels que la farine de froment, la farine de maïs, l'huile de palme brute, l'huile raffinée, le sucre ou encore les pâtes alimentaires. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En République centrafricaine, après près d'un mois de blocage dû à l'insécurité, le trafic commerçant a repris sur l'axe Bangui-Garoua-Boulaye à la frontière du Cameroun. Les premiers camions ont quitté Bangui ce week-end. C'est le soulagement dans la région avec la reprise de ce trafic vital pour l'économie. Correspondance à Bangui de Freeman Sipila.
Plus de 300 camions de transport de marchandises étaient bloqués dans la capitale centrafricaine en raison de la présence des rebelles sur l'axe Bangui-Garoua-Boulaye, principale voie de ravitaillement à partir du Cameroun. La suspension de ces convois vitaux pour la République centrafricaine a entraîné la rareté et la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. À Bangui, la plainte fuse de partout.
Le chemin qui amène le marché dans le pays, c'est le Bangui-Garoua-Boulaye. Et nous, les commerçants, sont vraiment privés de notre activité. Les marchandises ne viennent pas, ils sont stockés à Garoua-Boulaye. Ils sont vraiment privés par rapport à ce qui était arrivé dans notre pays.
Dans les alimentaires tels que l'huile et raffinée, avant un litre coûtait 1000 francs CFA, mais aujourd'hui il y a 1400 francs CFA.
Pour éviter que Bangui ne sombre dans une crise économique de grande envergure, les autorités ont décidé avec la MINUSCA de relancer les convois malgré les menaces des rebelles. Les premiers camions, une cinquantaine, ont quitté vendredi 15 janvier. Le deuxième convoi est parti ce dimanche. Aladi Awal, délégué des camionneurs de l'axe Bangui-Douala, se réjouit de pouvoir finalement quitter la capitale centrafricaine.
Inch'Allah, ils vont envoyer les outils par rat. On est en train de prier. On dit souvent, quand la maison de son voisin est en train de brûler, il faut l'aider à éteindre parce que sinon vous-même, vous serez vraiment. Surtout, vous voyez, même nous, au niveau de chez nous, au Cameroun, nous avons le problème au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord. Ce que nous allons demander, nous demanderons Dieu de mettre la paix dans toute la suite et dans tout ce qu'on a fait.
Moteur en marche, Mamadou, camionneur camerounais, est dans la longue queue. Il n'attend que le top pour partir.
Grand plaisir beaucoup pour que les activités reprennent. Puisque pendant les trois mois, là, on a eu tellement de problèmes. Si les activités reprennent, c'est une très bonne chose pour moi, en tant que conducteur.
Le conducteur de Grunier ne cache pas lui aussi sa satisfaction.
Je suis content, je suis bien content. Je sais que le pays est devenu calme. Je sais que nous tous sommes faits.
L'économique centrafricain ne souhaite que la paix pour exercer en toute liberté ses activités.
Nous souhaitons seulement que la paix revienne, que ce couloir qui quitte Bangui à Garoua-Boulaye s'ouvre pour que les touristes viennent, les étrangers viennent et que nous aurons la possibilité d'envoyer nos produits aussi au Cameroun à côté et à l'étranger. Et pour que aussi les prix de ce que nous achetons reviennent moins cher pour que le coût de la vie.
tensions sécuritaires en Centrafrique a négativement impacté l'économie du pays. Dans la capitale, toutes les activités tournent au ralenti en raison du couvre-feu instauré de 18h à 5h du matin. Freeman Sipila Bongi pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24h sur 24 en République Centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Gabon, plus de 4 ans après les violences post-électorales, où en est le dossier des victimes du scrutin contesté de 2016? La question vient d'être examinée pendant un long cycle de dialogue politique entre le gouvernement gabonais et la délégation de l'Union européenne. Si le groupe de travail conjoint est parvenu à un compromis sur le traitement des prisonniers issus de ces violences, le nœud gordien demeure avec la question de l'indemnisation des victimes toujours en souffrance. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiang-Ingze.
Plus de 4 ans après les graves incidents ayant suivi la réélection d'Ali Bongo Ondimba pour un second mandat en 2016, l'Union européenne et la partie gabonaise militent désormais pour la cohésion nationale. Selon l'Union européenne qui en a pris acte, le gouvernement est en plein examen du dossier des détenus au cas par cas. En même temps, qu'il s'est dit favorable à l'indemnisation des victimes, mais sous conditions. Rosario Bento Pais, ambassadrice de l'Union européenne au Gabon.
Concernant les éventuelles victimes des violences post-électorales de 2016, les deux parties ont souligné l'importance d'une réparation dans un esprit d'apaisement. La partie gabonaise a souligné qu'elle n'avait connaissance à ce stade d'aucune enquête judiciaire ou administrative ouverte concernant ces faits. Elle a assuré que des informations étaient apportées. Aussi les victimes présumées ou leurs familles déposaient des plaintes, elles seraient traitées en droit.
Serge Tarcissus Badinga est sur la liste des familles des victimes des violences post-électorales de 2016. Il n'a plus d'espoir de retrouver son frère Gildas Tchinga. Juste une photo en souvenir du disparu et une plainte auprès du procureur de la République. L'ébéniste de 33 ans n'a pas donné signe de vie depuis le 31 août 2016.
On attendait, je crois, la proclamation des élections. On est allé, du côté de Chabona et ils sont repartis du côté du QG de M. Jean-Pierre. Depuis le QG, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles.
Serge et les membres de sa famille ne veulent pas entendre parler d'indemnisation. Ils attendent tout autre chose.
Mais indemniser d'abord quoi? Pourquoi d'abord indemniser? Qu'on nous dise, bon, qu'on nous sorte les corps et qu'on puisse bien pleurer nos dessins.
Le dossier des violences post-électorales a déjà été porté par le collectif des victimes devant la Cour pénale internationale. Les avis de la CPI sur le cas étant toujours à l'étude, les ONG locales de défense des droits de l'homme ne lâchent pas du lest. Georges Paga, président du collectif des victimes.
Nous suivons attentivement ce dossier. Nous espérons que des enquêtes vont être menées parce qu'on ne voit pas l'utilité d'indemniser les gens sans pour autant établir la responsabilité de ceux qui sont impliqués dans la commission de ces crimes. Et beaucoup des Gabonais sont toujours en deuil, n'ont pas encore fait leur deuil. De nombreuses familles se sont indignées par cette situation.
La bataille des chiffres se poursuit autour des violences post-électorales de 2016. Si le bilan officiel fait état de 5 personnes tuées, l'opposition et la société civile parlent d'une cinquantaine de victimes et de centaines d'arrestations. Libreville, Ismaël Obiangzi pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Dion, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.